AIS Radio, culture, sport, info, santé et environnement. AIS Radio, la voix des sans voix, 105.8, encore meilleur, encore plus fort.
Décryptage. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes avec Michel N. Christophe. Je suis avec mes invités qui vont se présenter dans très peu de temps. Tous auteurs confirmés et en devenir. D'accord. Et on est là pour parler de l'écriture. Écrire dans l'âme. Je sais qu'il y a des gens qui veulent écrire. Et nous sommes là pour vous inspirer, pour vous encourager, pour vous aider si possible. Vous pourrez nous appeler. Nous comptons sur vous pour ça, au 06 90 18 42 03. 18 42 03. Alors, mes chers invités, il y a Iliac, il y a Darella et il y a Johan. Vous allez expliquer qui vous êtes dans quelques secondes, mais d'abord, ça veut dire quoi pour vous, écrire dans la marge? Qui veut commencer?
Madame.
Non, je sais pas, je peux.
Écrire dans la marge, pour moi, ce serait écrire, mais de façon authentique, à l'extérieur des codes, de ce qu'on peut lire habituellement, de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît. Et voilà, pour moi, ce serait ça, écrire, mais avec sa propre vision. Des choses sans forcément se baser sur des règles. Voilà.
Ça me plaît ce que tu viens de dire là. Qui veut ajouter quelque chose?
Bon, déjà la base, la marge de quelle page, j'ai envie de dire? S'il y a une marge, quelle est la page? C'est la page, c'est l'écriture officielle, comme disait
Darella.
Si la page c'est l'écriture officielle, la marge c'est l'écriture qui ne l'est pas. Et je pense que en tant qu'écrivain, y compris des écrivains qui n'ont pas encore osé écrire leur livre, ça commence toujours dans la marge intellectuelle, la marge de notre inspiration. Et à l'issue de cette inspiration là, à la fin il y a un produit, si on va au bout du processus, qui permet d'avoir sa propre réalité, son propre monde, ouais. Et qui forcément est en marge du monde.
Wow. Donc...
pour moi, écrire dans la marge, j'arrête pas de vous. Cette copie d'école où on a cette marge, où c'est écrit en rouge, etc. Donc c'est écrire dans la marge, écrire en marge, c'est tout ce qui va être autour de l'écriture finale. Et je peux pas m'empêcher de penser à tous ces petits post-it qu'on a écrits, tous ces bouts de papier qui ont été perdus, qui sont stockés, qui prennent la poussière. Et des fois, on a beaucoup plus d'écrits en marge que vraiment dans l'œuvre en elle-même.
Mmh. Super. Pour moi, écrire dans la marge, c'est écrire en dehors des codes établis. C'est être libre et faire acte d'autonomie dans ses choix. Ne pas suivre une ligne directrice particulière, une ligne éditoriale particulière, c'est faire ce qu'on a envie de faire. C'est déplaire à qui a envie de se sentir mal, c'est leur problème, c'est écrire de façon authentique et déranger, bousculer, parce qu'on est justement authentique. Alors, merci beaucoup.
Merci à toi.
Qui êtes-vous, Darella, qui es-tu?
Darella, je suis préparatrice en pharmacie hospitalière de profession et passionnée de culture, de l'histoire de nos îles, de tout ce qui est afrodescendant. Qui suis-je au-delà de ça? J'aime dire que je suis messagère, du coup, parce que dans mes écrits, j'essaye toujours de transmettre un message en lien avec la culture et surtout qui pourrait aider maintenant, enfin la Guadeloupe d'aujourd'hui, les jeunes tout comme moi qui ont maintenant soif de connaissances et voilà, c'est ce que je suis.
En fait, t'écris pas pour écrire, pour faire de belles phrases, t'écris voilà. parce que t'as un message, t'as quelque chose à communiquer.
Exactement.
Ok, donc en fait, tu vas continuer d'écrire, si je comprends bien.
Oui, à transmettre, oui.
Parce que quand on écrit pour écrire, on n'a pas grand-chose à dire.
Voilà, c'est ça, exactement.
Tout le monde est d'accord.
Là. Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, et qui es-tu, toi?
Alors, Yac Nolbas, donc moi, je suis très, très loin du milieu littéraire, si j'ai envie de dire, mais je suis un peu touche-à-tout. Donc, je suis policier municipal, en fait, sur la collectivité de Sainte-Anne. Et je touche beaucoup donc aux arts visuels, que ce soit le cinéma, la peinture, le dessin, et récemment l'écriture, parce qu'il me fallait un autre moyen d'expression, vraiment, vraiment touche-à-tout. Donc, dès que je peux, je mets les mains dedans, j'expérimente, je vois. Et donc là, l'écriture, en fait, a été un bon moyen pour moi de m'évader, d'explorer, de voyager tout en restant à la maison. Parce que je suis un peu casanier quand même. Mais l'exploration, le voyage, c'est pour moi c'est primordial. Faut qu'on décolle complètement quand on lit un livre.
Et c'est beaucoup moins cher.
Ah, c'est beaucoup moins cher.
Ah, c'est clair.
Ah oui,
ça se passe dans la tête, tout ça. Hein? Et toi,
que dire après tout cela? je dirais que je sais pas quoi dire par rapport à ça. Parce qu'on a des identités. Ouais, on a des identités multiples. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire que je suis chacun des personnages que j'écris. Parce qu'ils ont tous un peu de moi. Ça c'est clair. Hein, là qui parle, ça c'est Nathan Luce qui parle. C'est Nathan Luce qui parle. Là c'est le pseudo. J'écris parce que j'ai aimé lire. Parce que je dis souvent que la lecture m'a sauvé de l'ennui. Parce que j'avais plein d'idées. Et que le monde dans lequel je vivais ne m'offrait pas d'opportunité pour vivre ces idées-là. Parce qu'on était déjà dans des rails où il faut faire ci, il faut faire ça, voilà comment on doit vivre sa vie. C'est de cette manière qu'il faut procéder. Et moi, j'avais une réalité intérieure qui était différente. Et la façon de m'échapper de ça, ça a d'abord été par les livres des autres. Et ensuite, une fois que j'ai accepté que moi aussi, je pouvais écrire des livres et essayer d'être au moins à la mesure de ceux qui m'avaient procuré du plaisir, eh bien, j'ai commencé à écrire.
La lecture t'a sauvé
de l'ennui.
De l'ennui.
Complètement.
Donc, quelqu'un s'ennuie, tu lui dis... Va lire, ouais. Excellent. Alors, maintenant, on n'est pas tous publiés, mais moi j'ai lu ton livre, même si personne ne le connaît, je le connais.
Exact.
D'accord. Et donc je sais que tu as une histoire assez puissante à raconter.
Oui.
Pourquoi as-tu voulu écrire?
Pourquoi j'ai voulu écrire? C'était une histoire. En fait, déjà, tout d'abord, mon prénom, c'est le personnage. Oui, et c'est ma maman, elle était en train de lire pendant qu'elle était enceinte de moi. Et elle m'a donné le prénom d'un personnage de livre. Donc, je pense que c'est qu'il y a déjà eu quelque chose par rapport à ça. Et pourquoi j'ai eu envie d'écrire? C'était vraiment pour... Parce qu'il me fallait exprimer ou vraiment extérioriser ma tête pendant un petit moment. Il y avait là toujours la même histoire qui me revenait. Et j'avais vraiment envie de la raconter, de la livrer au monde.
C'est
une obsession. C'est vraiment limite comme une obsession. Mais c'est vrai qu'elle revenait chaque fois, tout le temps. Et là, je me disais, mais... Enfin, qu'est-ce qui m'empêchait d'écrire un livre? Pourquoi je n'écrirais pas un livre à ce sujet-là? Et surtout que l'histoire était vraiment toute prête dans ma tête. Donc,
Attends, pour que je comprenne. Parce que tu sais, les gens qui nous écoutent, là, ils ont peut-être envie d'écrire aussi. Et ils ne savent pas comment commencer. Donc, tu es en train de nous dire qu'une histoire te revenait tout le temps, dans tes rêves, dans comment? Tu pensais à la même chose tout le temps? Comment ça se passe?
Comment raconter ça? Je me rappelle du début de cette histoire. C'est que j'étais une fois à la fête des morts, à Guayave, en train d'illuminer la bougie de ma grand-mère, la tombe. Et je décide en fait d'aller allumer une bougie sur une autre tombe qui n'était... qui était un petit peu abandonnée. Ça se voyait que ça faisait longtemps qu'elle n'y avait pas eu de visite. Et en faisant cette action-là, ça... tout de suite, l'histoire m'est venue. Je suis toute partie dans l'imaginaire, vraiment. Et je sais pas, j'ai juste allumé une bougie sur une tombe dont je connaissais pas qui était là, qui reposait. Et Je lis l'histoire, tout de suite. Voilà, c'est ça. Mmh. Exactement.
Donc en fait, n'importe quoi peut déclencher une histoire.
Voilà. Et ben ça s'est passé, j'étais jeune, c'était il y a 10 ans quand même. Je me rappelle, j'étais encore au lycée. Et ben, chaque année, souvent là tout ça, je revoyais cet acte que je faisais et que la même histoire qui se répétait,
En t'écoutant, je revois des scènes du livre.
Voilà.
Et je crois qu'il faut que tu dises aux gens à quoi ils doivent s'attendre, et là le titre.
Oui.
Et moi je vois la couverture.
Oui.
Les bougies allumées.
Voilà.
Et c'est quoi le titre? Darella Vuto, c'est le nom. Alors, du coup, ce nom-là, il faut faire attention.
Donc c'est une bougie sur une tombe. Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'ai changé le titre. Je me suis parce que c'est vraiment l'essence, la source du livre en fait. C'est vraiment quand j'ai posé cette bougie sur cette tombe que l'histoire s'est créée dans ma tête. Et du coup, une bougie sur une tombe, c'est l'histoire de Loa, une lycéenne tourmentée au lycée et vraiment désespérément, elle recherche désespérément la reconnaissance de sa mère. Donc un soir de la fête des morts, elle va allumer une bougie sur la tombe de sa mamie et une bougie sur une tombe dont elle ne connaît pas la personne qui s'y repose. Et de là, elle lit son âme à la personne qui est en... Voilà, c'est ça. Et de là, elle, tout ce qui est mystique, elle ne connaît pas. Donc elle va devoir mener une enquête pour se débarrasser de cette personne à qui elle est liée, parce qu'elle la voit tout le temps. Tout le temps, c'est vraiment... elle la voit tout le temps et elle veut se débarrasser de cette personne. De cette vision. Et pour se débarrasser, elle va devoir mener l'enquête et partir à la recherche de l'histoire de son île, l'histoire aussi de sa propre histoire et de l'histoire de cette personne. Et des mystères de son île. Et au bout de cette aventure, j'ai envie de dire, elle ira à la découverte d'elle-même et également de son émancipation.
C'est comme une histoire initiatique.
Voilà.
Coming of age story. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous savez comment on dit ça en français?
Musical. Quelle est la...
Coming of age. C'est quand on atteint l'âge adulte, mais on découvre qui on est et qu'on passe par différents périls pour se prouver soi-même.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Waouh, tu sais, les gens, tu leur donnes envie. C'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes au travail pour que
tu... C'est toi qui es le seul à l'avoir lu.
Oui, exactement.
Non, c'est toi qui aura notre fin.
On a travaillé ensemble.
Oui, exactement. Voilà.
C'est ça. Ouais.
Alors, et toi, pourquoi tu écris?
Alors, pourquoi j'écris? Comme je disais, c'est à la base, je recherchais un média différent.
Oui.
Donc, on fait de la peinture, on fait du dessin, on teste l'aquarelle, on fait du cinéma, on fait du son, de la musique, de l'image, etc. Mais y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il me faut un média où ce que je vais pouvoir procurer au lecteur, à l'auditeur, ne sera pas déjà pré-mâché. Sur une œuvre, on va dire, visuelle.
C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour
eux, hein. Pas tout à fait nouveau, mais il faut qu'ils fassent le travail.
J'essaie de comprendre tout ça.
En fait, il n'y a pas d'intérêt à l'imaginaire si tout est mâché, tout est présenté. Donc sur une, on va dire, sur une illustration par exemple, le rouge c'est du rouge. Le bleu c'est du bleu. Bleu pâle, ça va être bleu pâle. Ce qui est intéressant avec l'écriture, c'est qu'au moment où on écrira la couleur bleue, le lecteur va s'imaginer la couleur bleue que lui préfère.
Oui.
Foncé, voilà, foncé, pastel, etc. C'est ce que j'aime dans l'écriture. Et si par exemple cette fameuse couleur bleue ne lui plaît pas, il passera au rouge. S'il en a envie, il passera au rouge. Son imaginaire fera le travail derrière. C'est ce qu'il me fallait un peu comme média. Donc, mais bon, l'écriture, c'était pas non plus. J'avais jamais mis les mains dedans. Donc pour le coup, c'est grâce à ma conjointe et à ma petite fille qui m'ont dit bah, écoute, écris, hein, amuse-toi, fais ça pour toi, et puis après on verra. Et c'est vrai que bon bah j'ai commencé quelques écrits, au départ c'était juste une dizaine de pages. Et le fait d'écrire pour soi, sans pour autant que ce soit destiné à la lecture, on évite tout ce qui est bride, blocage. Ah oui, on se sent plus. parce qu'on écrit pour soi. Finalement, il y a une petite lecture qu'elles font, puis elles me disent, mais écoute, il est peut-être temps que tu ailles un peu plus loin que tes 10 pages, parce qu'il y a, il y a peut-être matière à faire, il y a peut-être matière intéressante.
491 pages,
ouais.
C'est beaucoup de matière.
Et ben, à partir de là, voilà, on commence à partir, on écrit un premier chapitre, puis un deuxième, et puis bah, timidement, on les montre quand même à 2-3 personnes, on essaie d'avoir quelques retours, ça plaît, on a des encouragements, et donc on continue, et on pousse l'écriture, et au final, au bout d'un certain moment, on arrive à un livre, et au stade de la publication, on fait pas, parce que là, c'est plus entre copains, c'est plus entre proches, on essaie vraiment de jouer avec énormément de monde.
Autant de monde que possible.
C'est ça. Donc on part vraiment sur une base de médias, et puis petit à petit, on se découvre une passion, une envie, un exutoire, son petit coin à soi où vraiment on se met dans sa bulle et on façonne petit à petit son univers, ses aventures, ses personnages, son ambiance et son identité en fait.
Tu crées des mondes, toi.
J'essaye.
Tu fais du fantastique.
C'est ça, donc de l'heroic fantasy. Plus précisément, de l'heroic fantasy.
Heroic fantasy.
Voilà, donc on est plus simplement, dans du fantastique avec des choses étranges, inhabituelles, fantasmagoriques. On est vraiment dans de la quête, de l'aventure, de l'exploration. Donc comme je le disais, c'est vraiment, on va aller chercher le voyage. Moi, d'accord, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire-là. Et donc on démarre justement sur l'histoire d'un ancien mercenaire. Qui un petit côté que j'ai eu pendant quelques temps aussi, où assez des conflits alentour, des guerres, etc., décide de se barrer, de vivre en autarcie. Donc il prend ses clics et ses claques, va en forêt et s'établit tout seul en autarcie. Donc c'était une de mes périodes où j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle, dans mon coin. Mais malheureusement, donc, comme le disait le collègue, hein, on est sur des rails. Ce qui fait qu'à un moment, bah, il est obligé de sortir de son état de quiétude pour pouvoir renouer, même si c'est temporairement, avec la civilisation. Et à partir de là, il met les pieds dans une quête, une aventure, qu'il va devoir suivre malgré lui. Mais tout au long de l'ouvrage, que ce soit du début à la fin, il y a cette notion de libre arbitre. Comme j'étais à la base à écrire pour moi,
oui.
Je faisais des choix et ces choix avaient des conséquences. Donc chaque décision qui est prise au sein de cette histoire-là, cette notion de libre arbitre, et lors de l'écriture, il n'y a pas de limite. Si je me dis que le perso doit aller à gauche, il ira à gauche, et quelles qu'en soient les conséquences,
ouais,
on avisera. Donc c'est ce qui est, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce processus à l'époque. Vraiment, voilà, le libre arbitre, l'exploration, le voyage et rouler jeunesse.
Et ça, c'est essentiel dans une narration.
Oui.
Parce que si le personnage se comporte comme s'il n'a pas le choix, l'histoire cale. Elle n'est pas aussi intéressante parce qu'en fait, on doit se projeter, parce qu'on sait très bien que on a tous le choix. C'est simplement qu'on n'assume pas forcément. Mmh. Mais c'est ça la condition humaine. Et donc tu reflètes ces conditions, même si c'est du fantastique, ce sont des dilemmes.
C'est ça.
Humains.
Tout au long.
Tout au long. Super, mais moi je vois 491 pages. Je vois une couverture super colorée. Tu fais des couvertures toi-même.
Je fais la couverture moi-même, donc sur ordinateur, donc digital painting, avec un démarrage au crayon, un ancrage.
Mais tu sais, quand j'ai fait ton livre la première fois, je regardais, j'ai cherché des défauts. Mmh. Pour voir s'il était bien fabriqué. Et je me suis rendu compte, et j'étais content de m'en rendre compte, qu'il était super bien fabriqué. Je veux simplement mettre ça en évidence.
Un titre
tout
plus,
le reste,
plus voyant.
Je ne sais pas comment tu as fait pour tomber si pile sur ce qui fonctionne. T'as comparé, qu'est-ce que tu as fait?
Un bon entourage. On compare effectivement, j'ai une phase de comparaison avec des romans du même type d'univers. Mmh. Des éditeurs que j'aurais voulu un jour rencontrer, et selon le format, donc je commence à travailler dessus histoire d'avoir un format concret, et donc j'ai une amie, Bérénice notamment, qui m'a donné un petit coup de main sur tout ce qui était mise en page. Donc quand ça n'allait pas, elle me disait recadre un peu par-ci, recadre un peu par-là, quelques idées, et finalement à force de travail
et c'est ça qui m'a convaincu après une... J'ai pas tout lu, hein, mais j'ai lu pas mal de pages. Et c'est la présentation qui m'a convaincu que franchement tu professionnalisais ton écriture.
Bah, comme je le disais, c'est au-delà de l'écrire pour soi quand on est à la maison, c'est au moment où on décide de publier, on le publie
pour les autres.
Pour les autres.
Et donc on a un devoir de...
Bah, de respect minimum déjà pour les autres, et on a le devoir, oui, de produire quelque chose qui soit concret et propre.
On est complètement d'accord sur ça. Et toi, qui es-tu?
Ben, alors, avant de dire qui je suis, je vais mettre en perspective les liens qui nous unissent, quelque part, nos trois univers. Parce que Darila, tout à l'heure, elle a parlé de la bougie sur la tombe. Enfin, moi, j'y vois une symbolique. C'est une renaissance.
Oui.
C'est sur une tombe où il y a un mort, jaillit une lumière qui va apporter un éclairage. L'éveil du feu d'Iliac. Que je n'ai pas encore lu le livre. Hein. L'éveil de feu d'Iliac, c'est, pour moi, je vois ça comme une révélation intérieure. Bon, je n'ai pas lu le livre, mais voilà. Je le vois comme ça. Je vois le dragon, c'est le feu intérieur qui sort et se dévore en tant que créatif. Et si on ne le met pas à l'extérieur, il nous consume de ne pas l'avoir utilisé.
Waouh, c'est quand même. Ouais.
il faut que ça sorte, et on l'a tous en nous, quels que soient les talents. Il y a parlé tout à l'heure de peinture, tout ça. Mm-hmm. Tous les artistes, même si le terme peut être galvaudé, ils ont ce feu qu'ils doivent exprimer, non seulement pas seulement pour nous, parce que je pense à ceux qui nous écoutent, mais ceux qui n'osent pas écrire. On a parlé de post-it, on a parlé de réalité intérieure, mais ceux qui n'osent pas écrire, ben, il faut déjà commencer à écrire pour soi. Et ensuite, à partir du moment où on veut professionnaliser sa démarche, ben, comme quand on va à un rendez-vous avec une personne qu'on aime, on va pas s'habiller comme si on allait attacher les bœufs, ben, c'est pareil, on présente un produit qui va plaire aux autres. C'est comme ça. Donc bon, alors qui je suis, enfin, moi... Quand j'ai écrit Le Vieux Nègre, je sortais d'exil économique en France. Je dis exil économique. Je disais exil économique en France parce que, à mon époque, moi j'étais un littéraire à la base, que ça m'a sauvé de l'ennui. Et deux orientations s'offraient à moi à l'époque, hein, c'était droit ou sciences éco. Voilà. Une fois que c'est dit.
J'ai connu.
Ouais. Donc je suis parti, je me suis dit, bon, quitte à faire droit et sciences éco, je vais céder à une de mes passions qui est le foot. Je vais vraiment tenter une carrière professionnelle. Donc je suis devenu footballeur professionnel pauvre. Et donc, c'est important de citer la différence.
C'est possible ça?
Oui, oui, parce qu'il y a dans toutes les divisions, il y a des professionnels jusqu'en troisième division. Et c'est pas tous Messi, c'est pas tous Mbappé, c'est pas tous Ronaldo. D'accord? Et ce qui m'a porté quand j'ai écrit Le Vieux Nègre, c'est que je me suis dit, écoute, je suis tombé sur un dessin animé qui s'appelle Bugs Bunny. Je me dis, mais Bugs Bunny, en fait, ce serait pas un peu Compé Lapin réadapté à l'américaine? C'est ce que je veux dire. Et je vais rechercher des trucs et je me rends compte qu'il y a beaucoup de contes africains devenus des contes antillais qui ont été américanisés. Y compris dans le pays complet. Je me suis dit, on a une culture qui est phénoménale. On a un métissage qui est phénoménal. On a des talents qu'on n'utilise pas nous-mêmes, mais que tout le monde voit. J'ai envie de reprendre les contes antillais, mais de leur donner une modernité, une complexité de personnages. Parce que je pense qu'ils ont été édulcorés pour qu'on ne se rende pas compte de la puissance de ce qu'on a.
Wow.
Et donc, Le Vieux Nègre, c'est l'histoire de... Je fais le teasing rapidement.
Oui, le Vieux Nègre 1, le Vieux Nègre 2.
Le Vieux Nègre 1, le Vieux Nègre 2 qui sort. C'est Le Vieux Nègre a créé le monde dans un roulement de tambour et un verre de rhum. Et puis, comme il est un joueur de grain de dé, comme mon grand-père, mon défunt grand-père, paix à son âme, il a perdu le monde des hommes. Donc, les personnages de conte sont exilés sur une île. Et l'île commence à rétrécir parce que le Vieux Nègre, les vagabondeurs, il va draguer les étoiles. Il va essayer de séduire les étoiles. Mais pour sauver leur île, ils doivent venir dans le monde des hommes le retrouver. Il y a beaucoup de symboliques qui rentrent en ligne de compte dans cette affaire-là. Mais le message que j'ai voulu transmettre, c'est qu'on a une culture puissante. Ce n'est pas une culture qui doit rester résiduelle, tournant autour de son propre nombril. C'est une culture qui doit conquérir par l'héroïque fantaisie, qui doit conquérir le monde. Et c'est ça. On a la base pour le faire. On a des talents. Moi, j'ai
imaginaire.
Donc à nous de le faire. Donc l'idée c'est ça. L'idée c'est d'allumer la lumière en fait, comme tu l'as dit. C'est ça l'idée. Il faut l'allumer.
Attends, mais ça c'était l'idée derrière le vieux nègre, premier tome.
Oui, le vieux nègre, premier tome. Alors, je baptisais parce qu'il y a une fin surprenante, c'est un peu la marque de fabrique. Et le deuxième, c'est la ritournelle belle, c'est la revanche du premier tome.
Et il est disponible déjà. Hein.
Il est disponible sur Amazon déjà.
Dis à tout le monde comment.
Ah oui, parce que le premier, il a été édité chez Azor.
Comment l'obtenir?
L'obtenir sur Amazon. On va sur Amazon, on commande le vieux nègre 2, la ritournelle belle. Nathan Luce, c'est mon pseudo. Parce que bon, faut sortir des rails, mais en même temps on a une vie, donc il faut essayer de séparer les deux pour éviter des interactions négatives. On vit dans le monde dans lequel on vit. Et voilà, ça parle de nos comptes, mais de façon adulte.
Avec est-ce que les gens peuvent te contacter pour avoir une copie?
Oui, ils peuvent me contacter, je peux laisser mes coordonnées. Alors c'est 06 90 68 04 58 ou encore par mail Académie Limeil, donc Académie en français, Limeil en créole, L-I-M-E-Y, @gmail.com.
Voilà. Et là, tu pourras leur vendre.
Et là, je pourrais leur vendre de main à main avec une dédicace et un échange.
Ils peuvent télécharger le livre aussi.
Ils peuvent aussi le télécharger en Kindle, en effet, sur Amazon. Pour ceux qui aiment la dimension digitale, mm-hmm. sachant qu'on est souvent des amoureux du papier, mais bon, c'est comme ça.
Mais je t'ai interrompu.
Non, c'est plus ce que je disais.
Donc, la ritournelle belle.
Oui, la ritournelle belle, c'est... Parce que derrière le vieux nègre, il y a l'absence du père, symbolique. Il y a comment l'absence du père restreint notre univers, l'île qui rétrécit, et comment aller à la quête de son père pour savoir qui il est vrai. C'est comme aller à la quête de sa culture pour savoir qui on est vraiment pour grandir et mûrir. Tout ça de façon ludique et drôle, parce que quand même, il ne faudrait pas que ça passe pour une thèse. C'est ça l'idée. Il est très rigolo, parce que j'aime bien rire, donc c'est important que... Quand je lis un livre, alors ça dépend du style de livre, j'aime beaucoup l'heroic fantasy, parce que j'aime cette dimension soit du guerrier solitaire, soit de cette quête qu'il y a, mais j'aime aussi beaucoup rire.
Donc en rubé de culture guadeloupéenne.
En rubé de culture guadeloupéenne, parce que ça permet de la mettre en avant, et ça permet de lui rendre la dimension qu'elle a et dont on ne se rend pas compte.
T'as pas donné un moyen de te contacter et de suivre Facebook.
Effectivement, donc vous trouvez l'ouvrage donc sur Amazon en version brochée à commander ou en Kindle également. Sinon sur le site internet dimitrisablon.com, avec un Y, hein, Dimitri. Eh oui, maman, les Y. Et donc à partir de là, vous avez un portail, soit pour aller consulter, voir les différents travaux, illustrations, etc. Et un autre portail qui est réservé au livre, où vous allez pouvoir donc commander m'envoyer un email, voir l'avancement du deuxième tome, etc.
C'est un pseudo.
C'est un pseudo.
Il n'y a que moi qui me cache pas.
En fait, ce que tout le monde ne voit pas tout de suite, et c'est ce que j'aime bien aussi avec ce petit challenge qu'on s'est donné avec ma conjointe. Donc si on retourne le livre, il y a beaucoup de petites anecdotes comme ça dans l'ouvrage.
Ah, c'est ton nom en fait.
En fait, oui. Voilà, vous avez Sablon, donc c'est le nom de famille, et Kylie, c'est le nom de ma petite fille.
Je me disais qu'il y avait un truc.
Voilà. Donc il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans le livre, pareil, qui ont été inversés, retournés.
Oui, en fait, il y a différents niveaux de lecture.
C'est ça.
Incroyable.
Donc, et puis dernier moyen donc pour obtenir le livre directement donc en contactant par 06 90 00 49 92.
Super. Alors moi je sais que Nathan Luce a d'autres livres, mm-hmm. parce qu'il m'en avait passé un qui n'a pas été publié, qui n'est pas sorti, qui est énorme aussi comme le tien. Et donc ça veut dire qu'il écrit depuis très longtemps, il n'a pas publié tout ce qu'il a écrit. On fait une pause ? Appelez-nous au 06 90 18 42 03. On revient bientôt. Bye.
AIS Radio, culture, sport, info, santé et environnement. AIS Radio, la voix des sans voix, 105.8, encore meilleur, encore plus fort.